Relation de choix. J'ose mettre, au nombre des liaisons volontaires, celle que j'ai eu le bonheur de former avec Madame de Staël, puisque nos rapports de famille en ont été l'occasion plus que la cause. Or, c'est dans le cours de ces liaisons que le naturel se déploie le plus librement. Les devoirs y sont moins étroits, l'égalité y est toujours supposée. Et, comme la durée de l'intimité n'est garantie que par celle du sentiment, on y éprouve des craintes d'éloignement ou de rupture qui mettent davantage en jeu tous les ressorts. Ici, donc, l'on contemplera dans la vie réelle ces contrastes entre des qualités opposées qui rendent le talent de Madame de Staël si remarquable, et l'on retrouvera dans la personne l'originalité de l'écrivain. Madame de Staël a dû former beaucoup de relations d'amitié. Elle inspirait ce sentiment presque dès la première vue, et elle était touchée de l'effet qu'elle produisait. De plus, tout semblait pour elle motif d'aimer. Elle aimait pour les vertus, pour les talents, pour la grâce, pour le bonheur qu'on lui donnait, pour le malheur qu'on éprouvait soi-même. Toute admiration, pour peu qu'elle s'étendît aux qualités du cœur, était en elle une affection tendre. La reconnaissance en était une, et le plus léger attrait, la bienveillance même, avait quelque chose de vif et d'animé, qui faisait naître le sentiment chez les autres, et par contre-coup, chez elle. Et, comme elle ne changeait jamais, comme elle n'oubliait personne, comme après 10 ans de séparation, on renouait, ainsi qu'elle exprimait elle-même, la phrase interrompue, il est résulté de là qu'elle a conçu de l'amitié à un nombre infini de degrés, et de l'amitié solide à tous ses degrés. Mais qu'on ne s'y méprenne pas toutefois, les rangs éminents dans son cœur étaient difficiles à atteindre. On était plus ferme encore aux premières places qu'aux autres, et il y avait peu d'usurpation. Les oscillations inévitables, avec une imagination telle que la sienne, avaient lieu pour chacun de ses amis autour d'un point fixe auquel son cœur revenait toujours. « Il y a 90 degrés invariables dans toutes mes affections, disait-elle, et il n'y en a que 10 de mobiles. » Quand on parle de Madame de Staël, il semble qu'on voudrait donner au mot une signification plus active et plus pénétrante. Ainsi, la pitié était un trait douloureux qui la transperçait et dont elle ne pouvait se délivrer qu'en soulageant le malheur. Sa bonté avait quelque chose d'inspiré, si on peut le dire. L'idée d'un plaisir à procurer la poursuivait comme celle d'une douleur à calmer, et elle ne trouvait de repos qu'après l'action bienfaisante. Le mot d'aimer est faible aussi pour exprimer ce qu'elle sentait, et pourtant il ne faut pas employer une autre nuance, car le malheur seul donnait à ses affections les plus puissantes les grands caractères de la passion. En effet, et c'est ici que le contraste est surtout frappant, elle démêlait avec une sagacité extrême le côté faible de ces mêmes amis qui lui étaient si nécessaires et si chers, et elle sentait leurs défauts avec une vivacité douloureuse. Comme je l'ai remarqué pour les auteurs qui lui plaisaient le plus, son enthousiasme, même exalté, était circonscrit et n'embrassait pas tout un ensemble. Le scalpel de son analyse n'a épargné aucun des objets de son attachement, et peut-être n'a-t-il laissé intact que son père. Mais les qualités que l'examen le plus rigoureux leur laissait, ces qualités faisaient une si forte impression sur son cœur, frappaient tellement son imagination, qu'elle lui semblait unique, inappréciable pour son bonheur, et une admiration limitée produisait en elle une tendresse sans bornes. Cette évaluation continuelle de ses amis, non seulement pour chacun, mais pour chaque jour de chacun, cette évaluation faite sans cesse en leur présence, les blessait parfois et les portait à douter de son affection. Il faut se soumettre avec vous à être jugé sur nouveau frais chaque matin, lui disais-je. Qu'importe, me répondit-elle, si j'aime davantage chaque soir. J'irais à l'échafaud, disait-elle encore, que je jugerais les amis qui m'accompagneraient. Au reste, cet examen s'étendait sur elle-même. Elle était, si on peut le dire, curieuse de ses impressions, et l'on était bienvenu à diriger ses regards sur son propre cœur par des observations et même par des reproches. Elle s'étudiait dans toutes les circonstances, et si elle a un peu trop souvent fait dire aux personnages de ses romans « tel est mon caractère, telle est ma nature », c'est que ces expressions lui étaient familières. Elle cherchait à bien connaître ses penchants, la tournure particulière de son imagination, afin d'en faire abstraction autant que possible dans ses jugements. Ainsi, elle se récusait quelquefois dans ses trop fortes antipathies, quoiqu'elle fût portée à croire que son tact était juste au fond et que l'avenir justifierait ses pressentiments. Elle a souvent dit qu'après s'être accusée elle-même de précipitation dans sa manière d'évaluer le mérite, la connaissance plus approfondie d'une personne l'avait presque toujours ramenée à la première idée qu'elle s'en était formée. « Un jour ou 10 ans, disait-elle, voilà ce qu'il faut pour connaître les hommes. Les intermédiaires sont trompeurs. » Jamais on ne se fera l'idée de Madame de Staël si on ne lui attribue pas la clairvoyance la plus complète. Elle voyait clair, et toujours clair. Clair dans l'opinion générale de la société, clair dans les impressions, dans les motifs de chaque individu, clair dans le cœur de ses amis et de ses proches. Ses illusions, quand elles s'en est fait, n'ont porté que sur l'avenir. Non que souvent elle ne devina aussi l'avenir quand elle y pensait, mais parce qu'elle était peu sujette à s'en occuper. Et de même que, dans le feu du discours le plus animé, son esprit observateur ne la quittait point, de même qu'elle apercevait à l'extrémité de la chambre tel sourire approbateur, tel amour-propre souffrant, tel visage préparé à l'objection. De même dans les actions, soit que ses affections ou ses opinions en fussent le mobile, elle savait parfaitement si elle exposait ou non sa destinée. Elle a marché à un but choisi par la volonté ou imposé par le malheur, sans méconnaître un seul des obstacles ou des dangers qui devaient se rencontrer sur la route. Sa vie était un drame d'une haute poésie, une tragédie où tous les rôles ont été fortement conçus et amplement développés. La sagesse, la prudence y étaient en plein représentées. Nul ne pouvait rien ajouter à la beauté, à la force de leur raisonnement. Mais un sentiment dominateur y jouait souvent le rôle de la destinée chez les anciens et faisait pencher la balance. Madame de Staël avait une constance extrême dans ses attachements. Jamais elle n'a pu rompre avec personne. Jamais elle n'a pu cesser d'aimer. L'affection, une fois conçue, devenait une maladie de son cœur, dont les torts la guérissaient bien difficilement. Ses torts, elle les sentait au plus vif, mais elle ne demandait qu'à être soulagée d'un tel souvenir. Peut-être savait-elle au fond qu'il n'y aurait plus de sécurité fondée et que les mêmes occasions ramèneraient les mêmes fautes, mais elle n'en pardonnait pas moins parce qu'elle aimait. Elle était indulgente par sa nature et aussi par un effet de sa supériorité. Elle voyait toutes choses de haut, et après un premier mouvement, souvent bien douloureux, elle ne s'étonnait d'aucune imperfection. À sa connaissance, à sa compassion profonde de la nature humaine, se joignait, pour ceux qu'elle aimait, la puissance que leurs traits, leurs mouvements, le son de leur voix exerçaient sur elle. Ils étaient eux, c'était là leur excuse. Ils lui plaisaient encore, et lui semblaient justifiés. Un certain attendrissement sur leur faiblesse, sur cet alliage imposé à toute excellence, à toute grandeur dans ce monde, venait à s'emparer de son cœur et à l'allégeait, en l'étendant sur l'humanité entière et jusque sur elle-même, le poids des torts de ses amis. On peut voir dans Delphine ce livre où elle a tout dit, la preuve de ce que j'avance. Au moment où Delphine apprenait que tout espoir d'épouser Léonce lui avait été ravi par la perfidie de Madame de Vernon, sa plus impétueuse douleur porte sur l'amitié trahie. Elle exhale son courroux en reproches violents. Mais Madame de Vernon, se voyant démasquée, ne prend plus la peine de se justifier. Elle dédaigne de chercher encore à plaire, et, répondant avec sécheresse, elle se montre sous un aspect nouveau et singulièrement désagréable. Ce changement frappe Delphine d'une espèce d'effroi, sentant pour la première fois qu'elle a tout à fait perdu son amie. L'idée qu'elle ne la reverra plus telle qu'elle était jadis l'occupe seule, et dès lors les rôles sont intervertis. C'est Delphine qui devient suppliante, et qui, par toute son émotion, voudrait reproduire au moins un mouvement de pitié chez celle qu'elle a tant aimée. Telle était exactement Madame de Staël. Elle eût voulu effacer du cœur d'un ami jusqu'au souvenir de ses torts envers elle, de peur que le remords ne lui ôtât de l'abandon et qu'il n'eût moins de bonheur et de charme. Quant aux indifférents, elle pardonnait leurs offenses sans y songer, et sans qu'il lui en coûtât même de la magnanimité. Ils étaient pour elle des choses matérielles, qui obéissaient aveuglément à la loi de leur intérêt. Elle ne donnait à leur ingratitude aucune prise sur son bonheur, trouvant par trop insensé de laisser troubler ce bonheur par ceux qui ne peuvent y contribuer. « Comment se fâcher, disait-elle, contre d'autres que ceux qu'on aime ?» Lors donc que son estime pour ses amis n'était pas foncièrement altérée, Madame de Staël supportait tous leurs torts. Ce qu'elle était hors d'état de soutenir, c'est la crainte de ne plus les revoir. C'est l'idée d'une séparation éternelle. Voilà le fantôme qui la poursuivait. Voilà le monstre dont les formes mobiles lui causaient sans cesse un nouvel effroi. Et lorsque, durant son exil à Copé, ses alentours commencèrent aussi à devenir les objets de la proscription, et que le désert lui parut se former autour d'elle, ce qu'elle a souffert de ce genre de terreur est affreux. Toutes les puissances de son âme conjuraient ensemble pour la déchirer. Et son talent, mort pour toute œuvre utile, exerçait contre elle-même sa force avec cruauté. Néanmoins, dans ses moments les plus douloureux, sa conversation était parfois très brillante. Elle était au point de m'étonner d'abord. Mais pourtant, en examinant Madame de Staël avec attention, on voyait l'état de son âme. « C'est une sonate que j'ai exécutée, disait-elle ensuite. Je suis un musicien exercé qui joue la difficulté sans y songer. Je parle sans que je m'en mêle, et je n'ai pas un instant cessé de souffrir. Mais de toutes les séparations, celle qui naît de la rupture était encore la plus déchirante pour Madame de Staël. L'amour-propre entrait si peu dans ses affections qu'elle aimait mieux voir ses anciens amis refroidis et changés pour elle que de ne pas les revoir du tout. Cette impossibilité où elle se sentait de briser aucun lien la plaçait même, à ce qu'elle disait, dans une infériorité vis-à-vis de ceux qu'elle aimait. La partie, selon elle, n'était pas égale. On pouvait la menacer de la rupture dont elle ne menaçait jamais et chercher à usurper ainsi un cruel empire. Ses véritables amis lui était à la lettre nécessaire. Il l'était plus qu'il ne se sentait porté à le croire. La voyant toujours entourée, toujours étincelante d'esprit, toujours occupée de mille objets divers, il croyait ou feignait de croire qu'il pouvait se retirer inaperçu. Mais il n'en était pas ainsi. Tous ses intérêts, si vifs en apparence, se seraient évanouis pour elle avec le bonheur de l'amitié. « Jamais, disait-elle, souvent bien à tort, mais avec une persuasion intime et douloureuse, jamais je n'ai été aimée comme j'aime. » Dans le tête-à-tête, sa conversation était quelque chose d'inouï. Nul n'a pu la connaître hors de l'intimité. Ses plus belles pages, ses discours les plus éloquents dans la société, sont loin d'égaler, par leur force entraînante, ce qu'elle disait lorsque, n'étant point obligée de se conformer aux dispositions de tel auditoire, elle agissait sur un instrument unique qu'elle-même avait accordé. Alors son grand esprit, déployant ses ailes, prenait librement son vol. Alors elle ne se prévoyait pas, et, témoin plutôt que maîtresse de sa propre inspiration, elle exerçait une influence surnaturelle qu'elle paraissait subir aussi. Influence bien ou mal faisante, mais dont elle n'avait pas la responsabilité. Tantôt, animée d'une verve amère et mordante, elle desséchait d'un souffle de mort toutes les fleurs de la vie, et portant le fer et le feu au fond du cœur, elle détruisait l'illusion des sentiments, le charme des relations les plus chères. Tantôt, se livrant à une gaieté singulièrement originale, elle avait la grâce ingénue et la confiance d'un enfant naïf qui est dupe de toutes choses. Tantôt, enfin, s'élevant plus haut, elle s'abandonnait à la sublime mélancolie du génie religieux qui pénètre le néant de l'existence terrestre. Mais c'était auprès de ses amis malheureux qu'elle déployait encore sa plus grande puissance. Entraînée par un sentiment rapide et profond, il semblait qu'elle parcourut le ciel et la terre pour trouver du soulagement à leur peine. Rien d'ingénieux, rien de bon comme ce qu'elle inventait pour les distraire, pour éclaircir un moment les sombres nuages de la tristesse. Elle paraissait disposer de l'avenir et en créer un, exprès pour eux, dans lequel, à force d'amitié, elle remplaçait toute chose. Les mots d'imagination, toujours compris dans leur genre, étaient allégés par des moyens aussi singuliers qu'eux-mêmes. Avec quelle avidité elle écoutait ! Une ardente curiosité pour les impressions des personnes sincères se mêlait si évidemment à sa tendre pitié que jamais on ne craignait de la fatiguer quand on lui confiait ses peines. Il n'y avait plus ni elle, ni soi. Les âmes se confondaient, et elle vous élevait à une telle hauteur, on planait sur une telle immensité que le bonheur, le malheur, le passé, le présent, la destinée de tous et la vôtre s'évanouissaient. Un sentiment solennel avait remplacé tous les autres, et l'on croyait assister ensemble au plus auguste des spectacles, celui de la divinité accomplissant son œuvre régénératrice sur la créature par le moyen terrible et pourtant salutaire de la douleur. Ah, qu'il est affreux d'avoir à souffrir sans elle ! Que faire des sentiments qu'elle avait tous partagés ? Il y a presque un remords dans le chagrin de l'avoir perdue. C'est que les regrets ne sont pas assez désintéressés. On se sent exilé d'une région délicieuse où l'on éprouvait des jouissances que l'on ne retrouvera plus. Elle était elle-même avec ses dons ravissants, et puis elle était encore le milieu à travers lequel on recevait tout ce qu'il y a de curieux, d'instructif, de digne d'attention sur la terre. On sent comme un rétrécissement, comme un appauvrissement de l'existence. On se perd soi-même avec elle. Il y a de la personnalité à la pleurer. Pour donner l'idée de la manière dont elle sentait les peines des autres, je citerai un trait qui me concerne, parce que, comme il est naturel, rien ne m'a jamais autant frappé. On verra ce qu'elle était, même après avoir perdu la vivacité de la jeunesse. Dans l'année 1816, l'âme encore ébranlée par le plus affreux malheur, la perte d'une fille angélique, j'étais à Nice avec mon autre fille, fort malade elle-même. Il survint une crise violente dans son état, et durant ces heures décisives, ce que j'éprouvais fut si cruel que, ne voulant pas épouvanter ma famille par mes lettres, il n'y avait que Madame de Staël au monde à qui j'osasse ouvrir mon cœur. Elle ne me répondit point sur ce sujet, et notre correspondance ordinaire ayant continué, je crus que ma lettre s'était perdue, et je n'y avais nul regret, car je craignais même, après avoir été rassurée, que la réponse ne renouvelât mon émotion. Quelques mois après, je fus entièrement confirmée dans cette idée. Nous nous étions déjà revus plusieurs fois sans qu'elle m'eût parlé de ma lettre, quand un jour, à Copé, comme nous causions depuis longtemps ensemble, elle cesse tout à coup de me répondre. Je la regarde, et la voyant pâle et troublée. « Qu'avez-vous ? » lui dis-je avec effroi. « C'est, reprit-elle, que je n'ai jamais pu vous écrire, vous dire. » Elle hésitait tellement qu'il m'était impossible de la comprendre. « Votre lettre ! » s'écria-t-elle. Enfin, n'en parlons plus, n'en parlons jamais. » Et elle sortit de la chambre, tout en larmes. Comme je n'écris pas l'histoire de Madame de Staël, je dois m'abstenir de multiplier les récits qui donneraient à cette notice l'apparence d'une biographie incomplète. Néanmoins, je me reprocherais de passer sous silence un événement aussi important que celui de son second mariage. Et la circonstance de sa vie qui a dû exciter le plus d'étonnement m'oblige à quelques détails. Un jeune homme bien né inspirait beaucoup d'intérêt dans Genève parce qu'on racontait de son brillant courage et par le contraste de son âge avec sa démarche chancelante, sa pâleur et l'état de faiblesse auquel il était réduit. Des blessures reçues en Espagne, des blessures dont les dernières suites ont été funestes, l'avaient mis aux portes de la mort, et il était resté malade et souffrant. Deux mots de pitié, adressés par Madame de Staël à cet infortuné, produisirent sur lui un effet prodigieux. Elle avait quelque chose de céleste dans le langage. Madame de Tessé disait « Si j'étais reine, j'ordonnerais à Madame de Staël de me parler toujours. » Cette musique ravissante renouvela l'existence du jeune homme, sa tête et son cœur s'enflammèrent. Il ne mit point de bornes à ses vœux et forma tout de suite les plus grands projets. « Je l'aimerais tellement, » a-t-il dit de très bonne heure à un de ses amis, « qu'elle finira par m'épouser. » Mot singulier que pouvaient inspirer divers motifs. Mais que l'enthousiasme, le dévouement le plus soutenu, obligent à interpréter favorablement. De si hautes prétentions furent secondées par les circonstances. Madame de Staël était excessivement malheureuse et lasse de malheur. Son âme pleine de ressorts tendait à se relever et ne demandait qu'une espérance. Lors donc qu'au moment où sa captivité se resserrait de plus en plus, où de sombres nuages s'amoncelaient de toutes parts sur sa tête, un nouveau jour vint à luire pour elle, le bonheur, dans son cœur désolé, renaquit comme de ses cendres, et le rêve de toute sa vie, l'amour dans le mariage, lui sembla pouvoir se réaliser. On sait ce qu'une telle union était à ses yeux. Cette plaisanterie d'elle qu'on a citée, « Je forcerai ma fille à faire un mariage d'inclination. » Cette plaisanterie renfermait une opinion sérieuse. Jamais la pensée de former elle-même de pareils nœuds ne lui avait été complètement étrangère. En parlant de l'asile qu'elle espérait trouver un jour en Angleterre, elle avait dit quelquefois « J'ai besoin de tendresse, de bonheur et d'appui. Et si je trouve là un noble caractère, je sacrifierai ma liberté. » Le noble caractère se trouva tout à coup près d'elle. Sans doute, elle aurait pu faire un choix mieux assorti, mais l'inconvénient des mariages d'inclination, c'est précisément qu'on ne choisit pas. Toutefois, il est certain que cette union l'a rendue heureuse. Elle avait bien jugé l'âme élevée de M. Rocca. Une tendresse extrême, une constante admiration, des sentiments chevaleresques. Et ce qui plaisait toujours à Madame de Staël, un langage naturellement poétique, de l'imagination, du talent même, comme l'ont prouvé quelques écrits, de la grâce dans la plaisanterie, une sorte d'esprit irrégulier et inattendu qui excitait le sien et mettait de la variété dans sa vie. Voilà ce qu'elle a trouvé en lui. À cela se joignait une profonde pitié pour les maux qu'il endurait, et des craintes toujours renaissantes qui entretenaient son émotion et enchaînaient sa pensée. Elle eût sans doute mieux fait de déclarer ce mariage, mais une timidité dont son genre de courage ne l'affranchissait point, mais l'attachement pour le nom qu'elle avait illustré l'ayant retenu, tout son esprit s'est employé à parer aux difficultés de sa situation. Faut-il dire qu'il valait mieux ne pas se mettre dans cette situation? Faut-il dire que Madame de Staël ne doit pas en tout point servir d'exemple? Elle l'eût avoué, bien volontiers. C'est là ce qu'elle a dit à ses enfants. C'est là ce qu'elle indique dans ses écrits, autant que le lui a permis une âme fière, qui a la conscience de sa grandeur. Elle était un phénomène unique sur la terre. On oublie avec elle les conditions de notre nature. On oublie que la société, s'étant arrangée sur la moyenne des facultés, les dons prodigieux sont en désaccord avec l'organisation de la vie. Ce qui serait plus étonnant encore que Madame de Staël, c'est que son génie seul eût été extraordinaire en elle. C'est qu'une existence intérieure si active, la source de son talent même, ne se fût manifestée que par son talent. L'heureuse imprévoyance de son caractère l'a bien servie dans le cours de cette union. Après des alarmes cruelles sur la santé de M. Rocca, elle revenait promptement à croire que sa vie n'était pas attaquée, que ses maux n'étaient qu'accidentels. Il ne lui restait de l'inquiétude qu'une attention continuelle et remarquable chez une personne si vive pour les soins nécessaires à sa conservation. Toute cette grande intelligence était employée à le servir. Mais qui dira ce qu'elle a souffert dans les moments de crise? À Pise, où il fut près d'expirer, elle se comparait elle-même au maréchal Ney, qui attendait alors sa sentence d'un instant à l'autre. Douée d'un talent qui ne la préservait d'aucune douleur et qui s'agrandissait de toutes, elle a dit ensuite qu'elle écrivait un ouvrage ayant pour titre « Un seul malheur dans la vie, la perte d'un objet qu'on aime ». Ce malheur a été celui du jeune et infortuné Rocca. Cette vie menacée, ce frêle roseau qui avait un moment servi d'appui à une existence en apparence si forte, ce roseau a été moins fragile encore qu'elle-même. Toutefois, il ne lui a pas longtemps survécu. La douleur, l'indifférence pour ses jours, ont achevé de trancher cette courte destinée. Il est allé mourir sous le beau ciel de la Provence, où un frère a recueilli ses derniers soupirs. Société et conservation. Au milieu de sa société habituelle, Madame de Staël était pleine de charme. Elle avait une simplicité de manière et même une apparence d'insouciance qui mettait chacun à l'aise. Il n'existait aucune contrainte avec elle. Les cercles, les dissertations en forme, l'esprit obligé ne lui plaisaient pas. Elle aimait trop l'imprévu en toute chose pour ne pas laisser beaucoup à décider au hasard, et il régnait autour d'elle un mouvement animé et facile. Observant toujours, elle n'avait jamais l'air d'examiner. Et comme son attention paraissait se porter sur le sujet de l'entretien, plutôt que sur la manière dont chacun le soutenait, l'on ne se croyait point en présence d'un juge. Sa supériorité ne pesait donc sur personne. Elle demandait qu'on lui donnât de l'amusement, non qu'on fît ses preuves auprès d'elle. Madame de Staël avait de la grâce dans tous ses mouvements. Sa figure, sans satisfaire entièrement les regards, les attirait d'abord et les retenait ensuite, parce qu'elle avait, comme un organe de l'âme, un avantage fort rare. Il s'y déployait subitement une sorte de beauté, si on peut le dire, intellectuelle. Ses pensées successives se peignaient d'autant mieux sur son visage qu'à l'exception de ses yeux, qui étaient d'une rare magnificence, aucun trait bien saillant n'en avait déterminé d'avance le caractère. Elle n'avait aucune de ces expressions permanentes qui, à la longue, ne signifient rien, et sa physionomie était, pour ainsi dire, créée sur place par son émotion. Peut-être aurait-elle même eu dans le repos les paupières un peu pesantes, mais le génie éclatait tout à coup dans ses yeux, son regard s'allumait d'un noble feu et annonçait comme l'éclair la foudre de sa parole. De même, elle n'avait point dans sa contenance, ni dans ses traits, cette mobilité inquiète qui est un indice d'esprit si trompeur. Une sorte d'indolence extérieure régnait plutôt chez elle. Mais sa taille un peu forte, ses poses marquantes et bien dessinées, donnaient une grande énergie, un singulier aplomb à ses discours. Il y avait quelque chose de dramatique en elle. Et même sa toilette, quoique exempte de toute exagération, tenait à l'idée du pittoresque plutôt qu'à celle de la mode. Lorsque Madame de Staël entrait dans un salon, sa démarche était assez grave et solennelle. Un peu de timidité l'obligeait à recueillir sérieusement ses forces quand elle allait attirer les regards. Et, comme cette nuance d'embarras ne lui avait permis de rien distinguer d'abord, il semblait que son visage s'illuminât à mesure qu'elle reconnaissait les personnes. On pouvait juger que tous les noms étaient inscrits chez elle avec bienveillance. Et bientôt ces mots charmants, dont elle était si généreuse, montraient qu'elle avait présentes à la pensée les actions et les qualités les plus distinguées de chacun. Ces louanges partaient du cœur et y arrivaient, parce qu'elles étaient données avec sincérité. Elle louait sans flatter. La politesse, selon Madame de Staël, n'étant que l'art de choisir dans ce qu'on pense. Peut-être des yeux fins aurait-il aperçu la borne de tous les éloges, mais elle avait un désir si réel d'obliger qu'on ne chicanait pas ses expressions, et sa cordialité imposait silence à l'amour-propre. Quelles que fussent les peines intérieures de Madame de Staël, elle portait presque toujours dans la société cette liberté d'esprit qui seule permet d'en jouir. Une cause de la vivacité et de la netteté de ses conceptions, c'est qu'il n'existait en elle aucune préoccupation trop tenace. Ses impressions venaient toutes du dehors et étaient en conséquence parfaitement justes. Les images se formaient en elle comme sur une toile bien lisse, et leurs couleurs étaient encore relevées par la légère nuance de mélancolie dont le fond était empreint. De là vient que chaque objet produisait son plein effet sur elle et qu'elle retirait du commerce social un soulagement réel et infaillible. Ce soulagement lui était, comme je l'ai dit, nécessaire. L'instinct conservateur de son talent répugnait à l'engourdissement. Peut-être sa constitution, plus faible qu'on ne l'a cru, exigeait le stimulant de la distraction. Car une sorte de terreur la saisissait à l'idée de la stagnation de l'existence. Dans sa jeunesse, elle ne pouvait pas supporter la solitude, et les impressions mélancoliques qui sont peintes avec tant de beauté dans ses ouvrages avaient chez elle une réalité redoutable. Ce n'est que bien tard dans la vie, et lorsqu'elle a su tenir à distance les monstres créés par son imagination, qu'elle a pu, selon son expression, vivre en société avec la nature. En conséquence, l'ennui qui, dans le monde ou ailleurs, est une solitude où l'on n'a pas même soi, l'ennui était extrêmement redouté par elle. Il ne lui suffisait pas qu'on fût spirituel, il fallait qu'on fût animé, et peut-être les gens d'esprit, qui ne se mettent nullement en frais pour la société, lui donnait-il un peu plus d'humeur que les hommes médiocres. Elle ne pouvait pas souffrir qu'on parlât sans intérêt. « Comment veut-on que je l'écoute ? » disait-elle, « quand il ne se fait pas l'honneur de s'écouter lui-même. » Elle supportait mieux certains défauts de caractère que l'esprit blasé et dégoûté. Et elle disait un jour d'un homme égoïste et chicaneur, « Il ne parle que de lui, mais cela ne m'ennuie pas. » parce qu'au moins je suis sûre qu'il s'intéresse à ce qu'il dit. Aussi la franche gaieté était toujours bienvenue auprès d'elle, et pourvu que cette gaieté n'eût rien d'ignoble ni de mauvais goût, condition indispensable avec Madame de Staël, elle ne lui cherchait jamais querelle. Il y avait de l'attendrissement, une vive reconnaissance dans ce qu'elle éprouvait pour ceux qui l'amusaient. Un bon mot, une histoire comique, était pour elle un petit bienfait dont elle parlait avec effusion. Et à chaque nouveau survenant, elle voulait qu'on répétât les traits qui l'avaient diverti. Le piquant, l'originalité, l'imagination, voilà ce qui lui plaisait avant tout. Voilà ce qui donnait de l'élan à son esprit et des ailes à son génie. La médiocrité phrasière, les répertoires vivants d'idées reçues, les chefs-d'œuvre de l'éducation routinière n'étaient rien pour elle, et ce qu'elle pouvait trouver dans sa bibliothèque ne lui était pas indispensable dans sa société. Elle n'exigeait pas que tous réunissent tout. Un seul avantage marquant lui plaisait mieux qu'un assortiment d'avantages médiocres. Ayant en elle-même le complément de ce qui manquait à chacun, elle ne demandait aux autres que de certaines pensées en saillie dont elle put former un ensemble avec les siennes. « Ma fille a besoin d'un premier mot, » disait M. Necker. et peut-être avait-il raison. Mais ce premier mot eût été nul ou absurde pour tout autre. C'était le panier près de la feuille d'acanthe qui a fait inventer le chapiteau corinthien. C'était la muraille, inégalement noircie par l'humidité, qui fournissait des sujets de tableau à un grand peintre. Voilà pourquoi certains auteurs étrangers l'enchantaient si fort. Lord Byron, en particulier, avait à ses yeux une valeur inépuisable. Il mettait en jeu toute son imagination, et elle créait de nouveau sur les conceptions de ce poète. « Convenez que votre Richard Cœur de Lion sera un Lara, » lui dis-je une fois. « Peut-être, » me répondit-elle en souriant, « mais je vous promets que personne au monde ne s'en doutera. » En effet, elle n'a jamais rien imité. Mais des germes inaperçus se développaient chez elle sous une forme originale. Et tandis qu'elle s'est toujours enrichie de l'esprit des autres, elle n'a jamais montré que le sien. On doit bien distinguer, même sous le rapport purement intellectuel, ses goûts d'avec son estime. Personne n'a jamais mieux connu que Madame de Staël le prix des bonnes proportions. Personne n'a fait plus de cas dans les choses sérieuses de cette justesse qui naît de l'équilibre. Si elle eût été appelée à former une évaluation, elle eût accordé la plus haute place à l'esprit le plus solide. Nul n'aurait eu le droit d'être mécontent de son numéro, mais le chiffre le plus élevé ne lui était pas toujours le plus nécessaire. Toutefois, elle finissait par s'impatienter de l'absurdité, et l'extravagance la fatiguait vite. Le point de conciliation entre l'imagination et le bon sens était toujours cherché et souvent trouvé par elle. « La folie peut être poétique, » disait-elle un jour, « mais la déraison ne l'est pas. » Les imprudences de parole que Madame de Staël a pu commettre ont bien plus souvent été causées par l'ennui que par l'entraînement. Quand la langueur paraissait sans remède, il lui arrivait quelquefois de faire une révolution dans la société. Elle rompait la glace d'une conversation insipide par un coup d'éclat et portait le trouble parmi les gravités diverses. Alors, par moments, elle pouvait manquer de mesure. Mais plus elle était animée, plus sa marche était sûre et ferme. Une fois lancée dans la carrière, il n'y avait plus un faux mouvement. Certaine de ses forces, elle courait au centre du péril, traitait en passant les questions les plus épineuses, touchait aux points les plus délicats, et faisait trembler ses amis pour elle, les indifférents pour eux-mêmes. On ne savait sur qui tomberait le feu de cette artillerie volante. On entendait les balles siffler à côté de soi. L'effroi passait des uns aux autres. Mais bientôt, chacun était rassuré. La modification, l'exception désirée, arrivait à point nommé. Un éloge relevait tout à coup celui qui se croyait l'objet de l'attaque. Et elle sortait triomphante des difficultés qu'elle avait accumulées autour d'elle. Il y avait de la peur dans le plaisir qu'elle donnait, comme il y en a dans celui qu'on prend à voir voltiger sur la corde. Mais c'est surtout dans la dispute qu'elle était extraordinairement brillante. Sa véhémence la plus impétueuse n'était jamais accompagnée d'aigreur ni de mépris. Aucune arrogance, aucune ironie, aucun sarcasme ne pouvait lui être reproché. Et il y avait quelque chose de flatteur pour son antagoniste jusque dans les forces qu'elle jugeait nécessaire de déployer contre lui. S'il échappait à celui-ci quelque expression inconvenante, elle le réprimandait avec vivacité. Mais bientôt, elle le tenait pour pardonner et passer outre. Elle aimait qu'on fît usage de tous ses moyens contre elle. Et véritablement, plus on se montrait fécond en ressources, plus on constatait sa supériorité. Elle avait tout l'esprit de son adversaire et quelque chose par-delà. Quand la question était épuisée et que la dispute menaçait de traîner en longueur, alors, rassemblant ses raisonnements les plus victorieux, elle entonnait une espèce de finale en fanfare dont il n'y avait pas à appeler. L'arrêt était toujours équitable. Elle avait fait une bonne part aux vaincus et s'arrêtait définitivement au point où toutes les opinions se rencontrent. Ce goût pour les conversations animées s'étendait jusque sur les discussions auxquelles elle ne prenait point part. On l'amusait en soutenant avec vivacité toutes sortes d'opinions singulières, et chacun s'en donnait le plaisir. On se battait à outrance dans sa société. Il se portait d'énormes coups d'épée, mais personne n'en gardait le souvenir. Coppée était cette salle d'Odin, dans le paradis des Scandinaves, où les guerriers tués se relèvent sur leurs pieds et recommencent à se battre. La diversité des esprits et des caractères étant pour Madame de Staël le sujet d'une étude constante, elle avait dans la société une occupation très différente de celle de briller et de plaire. Elle était le naturaliste qui observe une espèce autant que l'orateur qui veut persuader. Mais ce qui la dérangeait complètement dans cette étude, ce qui lui ôtait tout intérêt pour les paroles humaines, c'était l'affectation. Ce défaut qui efface tous les traits saillants, qui substitue un idéal faux et monotone à l'immense variété de la nature morale, ce défaut l'ennuyait profondément et ne l'impatientait guère moins. Elle s'exprimait ainsi à ce sujet. Il n'y a jamais de tête-à-tête avec les gens affectés. Le personnage adopté arrive entière, et c'est celui-là qui répond quand on s'adresse à l'autre. Les gens affectés sont les seuls avec lesquels il n'y a rien à apprendre. L'exagération lui déplaisait aussi beaucoup. Quand on met 100 au lieu de 10, on n'a pas plus d'imagination pour cela, disait-elle. Par là même, les grandes démonstrations de sensibilité lui étaient suspectes. Tous les sentiments naturels ont leur pudeur, a-t-elle remarqué. On était, pour ainsi dire, forcé à la vérité avec Madame de Staël. Non pas qu'on fût à l'abri de la blesser quand on parlait franchement, mais parce que le contraire était trop insipide. Il valait mieux se quereller que s'annuler avec elle. Et selon sa propre expression, elle demandait surtout qu'on fût quelqu'un. De plus, elle voulait être instruite de tout, à tout prix. Elle pensait qu'un signe certain de décadence, soit dans l'esprit, soit dans le caractère, c'est la répugnance à apprendre la vérité. « J'ai connu que Bonaparte baissait, a-t-elle dit, quand j'ai vu qu'il ne se souciait plus de savoir le fond des choses. » Elle-même donnait trop fortement le ton à cet égard pour qu'on ne dût pas le prendre. Elle écrivait une fois à sa fille, à propos de je ne sais quelle discussion. « J'ai le tort de soutenir trop vivement le vrai, mais c'est toujours le vrai qui dispose de moi. » Ce goût pour le vrai était encore chez elle une source d'indulgence, en ce qu'il balançait le trop d'attrait qu'elle eût pu avoir pour l'esprit. Partout où elle se trouvait, je ne dis pas seulement le naturel de l'expression qui est une grâce, mais un sentiment réel, mais une persuasion profonde et intime, elle éprouvait de l'intérêt. Une femme entièrement dévouée à ses enfants, ou sincèrement pieuse, un homme plein d'honneur et d'intégrité, lui était agréable par cela seul. Elle faisait cas de toutes les connaissances, de toutes les expériences positives. Les négociants, les gens d'affaires, tous ceux enfin qui ont appris à traiter avec leurs semblables, et cela parmi le peuple même, fixaient son attention et lui donnaient à penser. Les êtres humains avaient plus de valeur proportionnelle à ses yeux qu'ils n'en ont les uns pour les autres. Elle savait tirer parti de certaines gens qui ennuient tout le monde. Madame de Staël était convaincue, au fond de son cœur, de l'égalité de toutes les créatures, enfants de la divinité. Et bien qu'elle eût conscience de son génie, elle ne s'est jamais véritablement crue au-dessus de qui que ce fût. Dans ses disputes avec M. Schlegel, elle soutenait toujours qu'il n'y a aucune différence réelle entre les hommes et que tout est compensé. Elle ne pouvait souffrir ces mystères d'Éleusis des gens distingués, ces initiations à de prétendues vérités, qu'on croit utile de cacher aux vulgaires. Aussi le dédain est-il l'objet de son antipathie. Elle y voyait le signe de quelque infériorité cachée. « Je ne dédaignerai pas, disait-elle, l'opinion du dernier de mes domestiques, si la moindre de mes impressions à moi tendait à justifier la sienne. » Même pour les facultés intellectuelles, elle était portée à croire que ce qui élève les hommes distingués au-dessus du niveau général est très peu de choses, à côté de ce qui appartient à tous les êtres bien organisés. L'effet universel que produit le talent lui paraissait prouver une grande analogie entre les esprits, et un fond de richesses communes à tous, auprès duquel les différences individuelles sont peu de choses. Quand les gens sont bêtes, disait-elle, il y a toujours de leur faute, et si j'avais de la puissance, j'obligerais tout le monde à avoir de l'esprit. Aussi ne pouvait-elle souffrir qu'on se crût supérieur aux autres, en raison de ce qu'on n'était pas compris d'eux. Comme à mesure que son talent avait grandi, elle s'était corrigée d'un peu d'obscurité dans le style. Elle avait le droit de dire que plus on s'élève, et plus on trouve le moyen de répandre la lumière sur les grands sujets, et d'être intelligible et profond à la fois.